Pardon, confiance et proclamation. Hein, ce sont les trois directives qu'Ésaïe, chapitre 12, nous donne et que Philippe a soulevé. Pardon. Nous sommes dans la suite de notre méditation sur le Notre Père. Et c'est la cinquième requête que Jésus nous invite à faire auprès de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Et de manière plus complète, on pourrait rajouter, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur juste cette première partie, et Dieu voulant, on verra une prochaine fois la deuxième partie de cette requête. Pardonne-nous nos offenses. Ah, le pardon. C'est une question vitale, une affaire de surendettement d'un point de vue biblique, et on verra aussi comment obtenir ce pardon si précieux. Alors, le pardon est une question vitale. Pourquoi ? Eh bien, disons-le d'emblée, sans pardon, il n'y a aucune relation restaurée possible. C'est impossible d'être en bon terme avec quelqu'un en ayant des griefs ou en ayant quelque chose contre. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Ésaïe, eh bien non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. C'est ce que le prophète dit au peuple. Mais il rajoute, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné de vous pour ne plus vous entendre. Donc là, nous voyons que la relation avait besoin d'être restaurée, assainie, avant de continuer. Le manque de pardon et cette présence du péché fait qu'il y a un mur qui se construit entre Dieu et nous. Sans pardon, il n'y a aucune paix possible. Il peut exister un lien entre nos fautes non confessées et l'état de notre âme, et même parfois l'état de notre santé. C'est ce que le roi David a expérimenté. Il dira lui-même dans le psaume 32, « Tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas avoué à Dieu ce qu'il y avait dans mon cœur, mon fardeau, eh bien mes os se consumaient. » Et je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Et que dit David ? Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Sans pardon, mes frères et sœurs, aucune paix possible. Sans pardon, aucune vie spirituelle possible. C'est l'histoire qui s'est passée au temps de Jésus, hein, vous vous rappelez, quand quatre amis portant un paralytique sur le lit, présentent ce paralytique devant lui, hein, dans Luc 5. Et voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé cherchaient à faire entrer, à le placer devant lui. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent donc sur le toit. Et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Le propriétaire ne devait pas être content de voir l'état de son toit. Après, voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Sois guéri. » Non, lève-toi. Non, que dit-il ? Tes péchés te sont pardonnés. À quoi Jésus pense-t-il en premier ? En premier lieu, non pas le guérir physiquement, mais en premier lieu au pardon des péchés, ce qui lui vaudra bien sûr une réplique de la part des pharisiens. Cet homme avait besoin d'un corps physique réparé, mais il avait surtout besoin d'une vie spirituelle restaurée. Alors le pardon, c'est donc une question vitale. Sans pardon, aucune relation possible. Sans pardon, aucune paix n'est possible. Et sans pardon, aucune vie spirituel n'est possible. Alors, pour Dieu, le pardon est une affaire sérieuse. Vous savez comment on réduit la limitation de vitesse sur les routes et autoroutes ? en demandant gentiment aux gens de rouler tranquillement. Ben non. On met des radars. Hein. Quand ça touche le cœur, excusez-moi, le portefeuille, en général il est là, hein. Eh ben ça fait réagir. Hein. C'est un sujet, le pardon, si sérieux que le grec, comme dans certaines langues, eh bien nous ne trouvons pas les termes « pardonne-nous nos offenses ». Mais nous trouvons le terme « remets-nous nos dettes ». Ah, quand ça touche au portefeuille, ça fait réagir. Hein? Comme si dans la pensée biblique, chaque péché, chacune de nos fautes était inscrite au débit de notre carte bancaire. Ah, ça fait mal. Hein? Comparable à une dette d'argent qu'il faudra de toute manière un jour ou l'autre régler. Ça c'est clair. Ou trouver un moyen de l'effacer. Alors, il y a une histoire assez surprenante dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, où il est dit que le royaume des cieux, nous dit Jésus, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et donc, on lui en a amené un, on lui a présenté un débiteur. Alors, parole vivante dit, eh bien, un débiteur qui lui devait plusieurs milliards. Parole de vie dit, on lui amena un serviteur qui lui devait des millions de pièces d'argent. Et le semeur précise qu'il lui devait 60 millions de pièces d'argent. Un jour, il y a eu une prise d'otage dans une administration et les preneurs d'otages ont demandé une rançon. Et ils l'ont demandé en petite coupure. Et vous savez ce que les autorités ont dit? Mais écoutez, si on met votre rançon demandée en petite coupure, il vous faudrait un camion pour transporter ça. Alors j'ai fait le calcul. Qu'est-ce que représente 60 millions de pièces d'argent? Si on ramène ça à des pièces de 1 euro, on ne parle pas des pièces d'argent, 60 millions de pièces de 1 euro représentent 19 semi-remorques de 24 tonnes. C'est ce que nous devons à Dieu. Je ne sais pas si on arriverait à remplir à nous tous un semi-remorque. Ah, c'est compliqué. Nous avons donc, chers frères et sœurs, une très lourde dette envers Dieu. Et tous les jours, cette dette augmente, 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 et nous voilà surendettés. Pardonne-nous nos offenses. Gère ces 19 semi-remorques, Seigneur. Ah, c'est quelque chose, hein. Le « nous » démontre que nous ne sommes pas tout seuls. Alors ça nous rassure un peu, hein. Ah, je ne suis pas le seul endetté devant Dieu. Hein? Nous sommes tous concernés. Tous. C'est Raphaël Charrier qui écrit ceci. Nous vivons à une époque où les chaînes d'information et les réseaux sociaux relaient en continu et en direct l'état de notre monde. Nous sommes exposés à longueur de journée au mal et aux injustices. Mais tu n'as là sous les yeux qu'une quantité négligeable de la réalité du péché humain. Idem pour tes proches. Ils ne voient que 1% du mal qui est en toi. Merci Seigneur. Oh, et le mal est un problème pour Dieu. Quand Jésus dit pardonne-nous nos offenses, remets-nous nos dettes, ça a du poids devant lui. L'autre n'est pas meilleur que moi, ni moi meilleur que l'autre. Nous sommes tous contaminés par le même virus. C'est pourquoi Jésus dit, tu ne vas pas dire à Dieu, pardonne-moi tout seul, mais pardonne-nous. Ajoutons aussi que nous contractons des dettes non seulement en faisant le mal, mais aussi quand nous ne pratiquons pas le bien. L'épître de Jacques, si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, ben, il contracte une dette. Ça va loin, hein? Cette requête, mon frère, ma sœur, met en lumière notre misère devant Dieu. Peut-être que nous nous croyons un peu meilleurs, peut-être que nous nous croyons quand même pas mal, mais l'apôtre Paul est direct. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Car, verset 23 de Romains 3, car il n'y a pas de distinction. Tous, absolument tous ont péché et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Triste constat. Et ce triste constat, un jour, un homme qui travaillait avec l'argent l'a réalisé. Il était bien placé pour savoir ce que c'était qu'une dette. Eh bien, cet homme se présente au temple et avec un autre à côté de lui, un pharisien, il y a le collecteur d'impôts et le religieux. Et le collecteur d'impôts, eh bien, il n'ose pas trop s'adresser à Dieu. Alors que le religieux et le pharisien, debout, dit « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des voleurs, ils sont mauvais, adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme celui-là, là, le collecteur d'impôts qui est derrière. Hein, je l'ai reconnu. Moi, Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et Jésus raconte en disant que le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, car je ne suis qu'un pécheur. » Il avait conscience de sa dette. Et Jésus ajouta que cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Le pharisien n'a pas ressenti la grandeur et le poids de ses fautes. Il n'a pas ressenti sa propre misère. Bien au contraire, il s'est cru plus juste que les autres devant Dieu. Il a même fait étalage de ses propres mérites. Et je pense que quelque part dans nos têtes, on se dit, tiens, je pourrais quand même dire à Dieu, j'ai fait des choses pour toi quand même. Rappelle-toi, et ceci, et cela. Hein? Ce pharisien a une autre opinion de lui-même. Il va jusqu'à mépriser ce collecteur d'impôts qu'il considère comme indigne de la présence de Dieu. Nous avons une lourde dette envers Dieu. Alors, comment obtenir la rétribution, l'effacement de cette dette? Comment obtenir le pardon si précieux de Dieu? Eh bien, tout d'abord, disons-le, tous nos efforts ne sont vains, la vanité des efforts de l'homme. Dans le judaïsme, toute transgression de la loi, eh bien, revient à contracter une dette envers Dieu, on l'a dit, qui doit être réglée. Et comment le régler? Eh bien, il y avait les œuvres méritoires, les bonnes œuvres ou les sacrifices, le temple. Eh bien, le roi David a compris quand il a péché que toutes ces bonnes œuvres, eh bien, disparaissent devant ces mauvaises. Il dira lui-même, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, dit David, et ma mère m'a conçu dans le péché. Chercher à faire le bien, c'est bien. Faire des sacrifices à Dieu, c'est bien, mais insuffisant pour rembourser nos dettes. C'est comme si nous décidions de rembourser 500 euros ou 1000 euros par mois, alors que cette dette s'accumule de 10 000 ou 100 000 par mois. Ça ne va jamais suffire, jamais. C'est pourquoi David a compris que les sacrifices, Dieu n'y prend pas plaisir. Sinon, il lui en offrirait, dans le sens que les sacrifices ne vont pas résoudre mon problème. Et si nous pensons que les sacrifices de l'Ancien Testament résolvaient tous les péchés, eh bien l'Épître aux Hébreux est claire. Il est impossible que les sacrifices, c'est-à-dire le sang des taureaux et des boucs, ôtent le péché. Ah, on est coincé là. Celui qui espérait pouvoir échanger sa dette contre la bénédiction de Dieu, eh bien, le voilà coincé. En réalité, mon frère, ma sœur, la décision de cette remise de dette appartient à Dieu. L'objectif de Dieu, disait Frédéric Baudin, n'est pas d'anéantir le pécheur ou d'anéantir le fautif, l'endetté, mais de lui faire prendre conscience de sa faute afin qu'il se détourne du mal, qu'il lui demande pardon et qu'il revienne à de bonnes dispositions et de bonnes attitudes. Oui, mais comment? Eh bien, tout d'abord, en venant à Jésus. Ça, c'est primordial. Dans le Nouveau Testament, la femme pécheresse, le paralytique, Zachée, Pierre et ce collecteur d'impôts, eh bien, et les chrétiens ont compris qu'il fallait venir à Jésus. Tous convergent à lui comme les mages suivent l'étoile. C'est d'ailleurs ainsi que Jean-Baptiste présente Jésus. Le voyant la première fois, il ne dit pas « c'est celui-là, celui-ci qui est le roi des rois ». Mais que dit-il ? « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Voilà quelques mots avec lesquels Jean-Baptiste fait le parallèle Jésus et la situation du péché. Il voulait que ses auditeurs voient en Jésus la garantie absolue du pardon des péchés. L'apôtre Paul l'a compris quand Jésus l'a arrêté, parce qu'il ne pensait pas que Jésus avait cette possibilité. Et qu'il écrira plus tard aux Corinthiens comme à nous. Je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et dans lequel et par lequel vous aussi êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Ce principe, chers amis, est valable encore aujourd'hui et éternellement. Les anges et les saints s'écrieront « Oui, Christ est mort pour nos péchés, l'agneau immolé. » Alors j'ai regardé dans le Nouveau Testament le nombre de fois où le mot « agneau » est employé. Il est employé 31 fois pour Jésus, et que pour lui. Et il se trouve 27 fois dans le livre de l'Apocalypse. Cela veut dire que ce que Jésus a fait, ce qu'il représente, venir à lui, dépasse et transcende son époque, tous les siècles, l'univers et tous les hommes. C'est donc auprès de Jésus que se trouve le pardon. Et plus on s'éloigne de Jésus, plus on s'éloigne du pardon. Et plus on s'éloigne du pardon, plus on s'éloigne de la réconciliation. Et au bout du compte, d'éloignement à l'éloignement, eh bien c'est la mort éternelle qui est l'éloignement de Dieu. Jésus est venu afin que quiconque croit ne subisse pas la mort éternelle. Ça veut dire l'enfer. Comment pouvons-nous obtenir ce pardon? Eh bien, nous pouvons l'obtenir en considérant la croix. D'ailleurs, cette cinquième requête que Jésus nous invite à dire « Pardonne-nous nos péchés, nos offenses », eh bien, j'imagine qu'en invitant à cela, Jésus a pesé chaque qu'un de ces mots, pardonne-nous nos offenses. Il est clair qu'il fait référence à la croix. Pour que ces mots soient exaucés, Jésus doit payer le prix. Et il sait très bien ce qu'il dit à cette foule. Pour que notre dette puisse être réglée une fois pour toutes, il faut qu'il ait de quoi éponger notre passif. C'est donc pas des paroles en l'air, ni un vœu pieux, ni un pardon virtuel. Oh, mes frères et sœurs, il s'agit d'un pardon qui exigeait un coût, un réel sacrifice, un sacrifice parfait. Parfois, nous disons des mots qui nous dépassent. Vous voyez, quand quelqu'un nous rend service, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, je te remercie infiniment. Infiniment ? Il va m'appeler tous les jours, jusqu'à l'éternité, pour me remercier ? Il ne le fera pas, je ne le ferai pas non plus. Parfois, nos mots sont amplifiés, dépassent nos pensées, mais pas pour Jésus. Quand l'âme découragée à Gethsémané, il priait pour éviter peut-être, s'il était possible, la croix, j'imagine que le Père a dû lui dire, « Mais Jésus, ces pauvres humains, comment pourront-ils être pardonnés ? Comment pourront-ils être libérés de leurs péchés ?» Si toi, mon fils bien-aimé, tu n'affrontes pas la croix. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne parole aux pauvres, proclamer captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et pour envoyer libres les opprimés. Mais pour cela, il fallait la croix. Oui, tout est là, cher ami. C'est là où nous pouvons avoir le règlement de nos dettes, à la croix. Nous pouvons obtenir ce pardon précieux, eh bien, en lui faisant confiance. Il y a aujourd'hui tant de coach, pour l'épanouissement personnel, pour ceci, pour cela. L'Internet en est rempli, hein. Un coach vous rendra peut-être meilleur, mais aucun coach au monde, aucune personne au monde, aussi douée soit-elle, ne pourra nous donner le pardon de nos péchés. Pierre, l'apôtre, a dit ceci. Lui qui n'a pas commis de péché, nous connaissons ce texte, sans doute, et dans la bouche duquel ne s'est trouvée aucune fraude, lui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. La guérison des maladies est un point important, mais la plus terrible des maladies, c'est celle de l'âme, où il n'y a pas encore le pardon obtenu par Jésus. Et c'est intéressant, hein? C'est lui qui n'a pas commis, lui qui n'a pas insulté, lui qui a porté, lui donc. Et oui, ses promesses sont certaines et tout repose sur lui. Ainsi, Ésaïe a pu écrire, eh bien, après les tourments de son âme, il rassasira ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui, il parle de nous aussi, hein, par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et de femmes et se chargera de leurs fautes. Nous avons tous besoin du pardon de Jésus, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons croyants ou non-croyants, jeunes ou moins jeunes, jeunes dans la foi. Et même avec des années de vie chrétienne derrière nous, nous avons tous besoin de ce pardon, de revenir à lui régulièrement, quotidiennement, autant de fois qu'il le faudra, et avec confiance. Comment obtenir ce pardon précieux? Eh bien, en se rappelant que pour Jésus, un péché pardonné est une affaire absolument réglée et classée. Alors nous, des fois, on revient. Vous savez, j'ai demandé pardon, mais je ne suis pas sûr. Je redemande pardon. Alors c'est bien quand on rechute, hein. Mais des fois, ben, voilà, on est en train de se dire, est-ce que Jésus a reçu mon pardon? Hein. Vous savez, au début, quand il y avait les SMS ou les mails, les gens envoyaient le message. Après, ils m'appelaient. Je t'ai envoyé un mail. Tu as reçu? Oui. Ce mail racontait, il détaillait le mail. Alors, je me disais, il me fait de m'appeler. Hein. Mais voilà, il y a des gens qui au début doutaient. Ça fonctionne pas trop bien. Mais quand tu demandes pardon au Seigneur, le pardon à qui est acquis? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand nous venons au Seigneur, jamais nous ne trouvons un Jésus qui rejette celui ou celle qui vient humblement à lui. Jamais dans les évangiles vous retrouvez un Jésus faisant des reproches ou humiliant celui qui se reconnaît pécheur. Jamais vous ne trouverez un doute quant à l'efficacité de ce pardon chez ses interlocuteurs. Si nous attendons ce genre de comportement, il se peut que Jésus n'a pas bien compris, etc., sérieusement, nous devrions revoir et examiner notre conception de Dieu et sur ce qu'il est, sa personne et son pardon. N'est-ce pas Michée qui a écrit ceci dans l'Ancien Testament? Il aura encore compassion de nous, dit-il. Il mettra nos fautes sous nos pieds et les jettera où? Au fond de la mer. Alors il y a quelques semaines qui ont essayé d'aller au fond de la mer pour récupérer quelque chose d'une épave au fond de la mer. Qui va chercher nos péchés au fond de la mer? Personne. Voilà où Jésus a mis tes péchés. Pour Jésus, un péché confessé et réglé est une affaire classée. Les promesses de Jésus sont certaines. Un jour, un garçon et une fille passaient l'été chez leurs grands-parents à la campagne. Et le garçon, qui aimait beaucoup jouer dans la basse-cour, eh bien, c'est un garçon, jetait des pierres. Alors, les filles aussi, elles jettent des pierres, mais c'est plutôt un truc de gars, ça, hein. Et puis, des petites pierres, il passe à des pierres un peu plus grosses. Et puis, des cibles, immobiles, il passe à des cibles mobiles. À tel point que, malheureusement, il tua la précieuse oie de la grand-mère. Ah. Alors, il est évident que, gêné, première réaction, il prit l'oie et l'amena derrière la grange où il enterra. Et à son retour à la maison, eh bien, il rencontre sa sœur qui lui a dit « J'ai vu que tu as tué l'oie. » Ah, en flag. « Si tu fais tout ce que je te dirai, je ne révélerai pas ton secret. » Alors, ce soir-là, après le dîner, la grand-mère dit à la fille d'aider à faire la vaisselle. Et la fille répondit, « Je suis sûr que mon frère voudra bien faire la vaisselle à ma place. » Ben oui, le garçon a protesté, il a dit, « Mais non !» Et la fille lui rappela, « Souviens-toi de l'oie. » Alors évidemment, il se mit immédiatement au travail, avec un sourire mitigé, mais il fit la vaisselle. Et ce petit manège dura quelques jours, et la sœur contrôlait son petit frère par ses menaces. « Souviens-toi de l'oie !» À tel point que, quelques jours après, le petit garçon n'en peut plus. Et ne pouvant plus le supporter, il dit à sa grand-mère en pleurs, « J'ai tué ton oie, grand-mère !» Et la grand-mère lui répliqua, « Je sais, lui dit-elle, et je t'ai vu le faire, mais je voulais savoir combien de temps il te faudrait pour que tu me le dises. » Ah, mon frère, ma sœur, c'est Lucien Clerc qui a écrit cette histoire et il ajoute ceci, « De même, nous aussi, comme certaines personnes, vivent dans une angoisse et une culpabilité continuelle. L'esclavage du péché détruit notre bonheur et remplit notre vie de problèmes. » Ah, on garde ça en soi, on a peur, et le diable nous accuse. Ah, que vont penser les autres? Que vont-ils dire? Et nous endurons cela parce qu'en réalité, nous ne comprenons pas complètement que Dieu veut nous pardonner et nous libérer. Alors, qu'attendons-nous pour découvrir ou redécouvrir ce pardon de Dieu? Peut-être que ce matin, il y a sur tes épaules un fardeau, quelque chose qui pèse sur ta conscience, un cœur chargé avec, vous savez, une diminution de ton zèle. Alors, tu peux venir au Seigneur. Il est là pour toi. Tu peux découvrir et redécouvrir son pardon. C'est dans Ésaïe où Dieu dit à son peuple, « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme de la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. » En réalité, chers amis, il est difficile de s'humilier. Il est difficile d'aller sur ce chemin, de se présenter devant Dieu et dire, « Je me suis planté. » Parce que ça touche notre orgueil, nos capacités. Quand même, on n'est pas des bons à rien. Hein, on est plutôt des mauvais en tout, comme dirait l'autre. Hein. Et notre orgueil n'aime pas ça. Dire à Dieu, ben, j'ai eu tort. Encore moins aux autres. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Et c'est là toute l'histoire de l'homme et de l'humanité. Toute l'histoire de ta vie qui fera la grande différence entre ce chemin et le chemin de « je garde ça pour moi ». Ça a fait la différence de Saül qui, devant Samuel, a dit « Oula, ne dis rien au peuple, hein, mais couvre-moi !» et qui a négligé le pardon de Dieu, contrairement à David, qui a reconnu son péché. La grande différence entre ce pharisien et le collecteur d'impôts, entre les religieux et la pécheresse, entre Judas Iscariote, qui n'a pas accepté, reçu, eu confiance, et Pierre. Les uns ont rejeté cette main tendue de Dieu, alors que les autres, humblement, avec foi, ont accepté. Et ils ont vécu dans le pardon en abandonnant leurs péchés. Alors, pardonne-nous nos offenses. La Bible, malheureusement, ne promet pas le pardon à celui qui endurcit son cœur et qui résiste au Seigneur. Mais à celui qui se reconnaît pécheur, devant le Seigneur, elle promet la guérison de cœur, la réconciliation et la paix retrouvée. Comme le Fils prodigue à qui le Père a rendu sa dignité de Fils. Prions. Seigneur, parfois nous sommes entêtés, parfois nous sommes oublieux, négligents, ou parfois même nous minimisons nos péchés, ou peut-être que nous maximisons nos péchés. Seigneur, tu vois notre cœur, il est tellement tortueux. Mais Seigneur, apprends-nous à venir à toi. Merci pour cette main tendue, 2000 ans après, encore tu nous invites à recevoir ce pardon. Peut-être que nous l'avons entendu maintes fois ce message, Seigneur. Ou peut-être que nous l'avons entendu que très peu. En tout cas, l'appel est le même. Et de venir à toi, afin d'enlever de nos vies cette culpabilité qui, comme un sac, est pesant sur nos épaules. Et comme le psalmiste Seigneur qui dit, « Si tu gardais le souvenir des fautes, ô Éternel, qui pourrait subsister devant toi ? Mais le pardon se trouve auprès de toi. » Et il ajoute aussi, « J'espère en l'Éternel, mon âme tout entière espère en l'Éternel, et je m'attends à lui. » Seigneur, nous nous attendons à toi. Amen.